Bienvenue sur Radio Franca, la radio des enfants et des jeunes.
Bonjour, nous sommes le 2 avril 2025 à 9h47. Nous sommes en direct sur la radio Champ Champ FM 91.2 avec la FAL. Je m'appelle Léa, je suis en compagnie de Maë, Enora et Nathan. Nous sommes les 5e K du collège Wilbur White à Champagné. Mes amis et moi, nous allons vous présenter le début de l'émission. L'émission que nous présentons est sur la lutte contre les discriminations.
Bonjour, je m'appelle Nathan. Les élèves de 5e K et les professeurs Madame Saquin, Madame Dipaola et Monsieur Pluma, profs de musique, français et histoire géo, ont travaillé avec nous sur leurs heures de cours. On a retravaillé les chroniques avec Monsieur Pluma, Madame Saquin et Madame Dipaola. On a recherché les musiques et on a commencé à retravailler. On a révisé avec nos professeurs, Madame Saquin et Monsieur Pluma. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Laurent et Charlotte, qui pourra répondre à nos questions.
Quel est le but de l'émission ?
Elle vise à lutter contre les discriminations.
Pourquoi la faites-vous maintenant ?
Parce qu'en ce moment, c'est les semaines d'éducation contre les discriminations.
Qui organise ces semaines d'éducation ?
C'est le collectif de l'éducation à la citoyenneté et à la diversité coordonné par la Ligue de l'enseignement FAL 72, comme la FALAC, qui est une association de familles, de langues et de cultures. Il y a aussi l'ALPF, qui est une association laïque du pays Fertois, et encore plein d'autres.
Pourquoi cela a lieu le mois de mars ?
Car le vendredi 21 mars, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
Qu'est-ce qui est organisé au mois de mars ?
Il y a des concerts, des ateliers, des expositions, des ciné-débats, des après-midi ludiques, amusantes. Et pour aujourd'hui, il y a un brunch interculturel de 10h à midi au centre social des Sablons, le Kaléidoscope.
Comment puis-je retrouver toutes ces informations ?
Il faut aller sur le site FAL 72 ou sinon le centre social a le programme en version papier.
Je vais vous présenter le sommaire de l'émission de radio. Les élèves de 5e K du collège Wilbur White a écrit des chroniques, je vais vous en citer deux, comme Martin Luther King et Ruby Bridge, deux figures de la lutte contre la ségrégation, contre le harcèlement, fait par Juliette, Elsa et Ezio. Il y aura aussi Comment engager, des artistes contre la discrimination sociale et raciale, fait par Maëva, Kilia et Enora, qui va vous présenter l'inclusion des personnes en situation de handicap. On a le plaisir d'accueillir Benjamin de l'association FAL 72 qui va vous présenter ce qu'il fait dans l'association et répondre à nos questions. Entre des chroniques, il va y avoir aussi des musiques contre la discrimination que l'on a choisies à la fin. On va vous laisser avec la musique Un homme debout de Claudio Capeo.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout.
Un Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Ici de toi à moi, c'est dur, je stresse. Mais mon rôle n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais.
Vous êtes de retour sur Champ FM 91.2 avec les Francas. Nous allons écouter maintenant Noah et Jade.
Qu'est-ce qu'une discrimination ?
Nous allons vous donner l'étymologie du mot discrimination. Il vient du latin discriminatio, qui veut dire séparation. D'après le dictionnaire Larousse, une discrimination est l'action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs.
C'est aussi le fait de distinguer et de traiter différemment quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. Le sexisme est une discrimination fondée sur le sexe.
On peut parler aussi de discrimination raciale. En France, la discrimination est un délit. C'est traiter défavorablement une personne en s'appuyant sur un motif interdit par la loi. Il y a 26 motifs interdits.
Par exemple, l'origine, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, le handicap, la religion, le poids. Nous allons vous donner deux exemples de discrimination de la vie quotidienne, la discrimination au loyer et celle à l'emploi. Qu'est-ce que la discrimination au loyer ?
Un propriétaire refuse de vous louer son logement du fait de votre origine. Il s'agit d'une discrimination.
En effet, pour écarter un candidat, il est interdit de retenir un critère considéré comme discriminatoire. Origine, sexe, âge, orientation sexuelle, etc.
Qu'est-ce que la discrimination au travail ? La discrimination au travail correspond à une différence de traitement défavorable subie par un salarié ou un candidat à l'embauche qui repose sur des critères prohibés par la loi. Dans le cadre du travail, les décisions doivent être fondées sur des critères professionnels et non sur des motifs de discrimination. Que faire en cas de discrimination ?
Si vous êtes victime ou témoin d'une discrimination, vous pouvez signaler ces faits à la police ou à la gendarmerie. Vous avez également la possibilité de faire appel aux défenseurs des droits, au 3928 ou à des associations de lutte contre les discriminations qui vous appuieront dans vos démarches. En tant que victime, vous pouvez déposer plainte contre l'auteur présumé des faits.
Merci à Noah et Jade, et maintenant nous allons écouter Liam et Grace.
Bonjour.
Nous sommes Grace
et Liam.
Et nous allons vous parler d'une personne
qui s'est battue pour l'égalité des sexes.
Cette personne s'appelle Olympe de Gouges.
De son vrai nom, Marie de Gouges. Olympe de Gouges est née à Montauban le 7 mai 1748. C'est une femme de lettres française qui est considérée comme une des premières féministes de France. Elle a lutté pour le droit des femmes. Elle est devenue une femme politique et polémiste. Elle a aussi lutté contre l'esclavage et l'abolition.
Olympe de Gouges est une autrice de pièces de théâtre où elle milite pour l'abolition de l'esclavage. Elle a écrit et créé de nombreuses pièces de théâtre.
Olympe de Gouges écrit la Déclaration des droits des femmes en septembre 1791, car elle se dit que les femmes ont aussi le droit à une déclaration, après que l'Assemblée nationale dise que la Déclaration des droits de l'homme le 28 août 1789.
Elle s'est engagée à défendre l'égalité des sexes, à combattre le racisme. Elle a donc d'ailleurs écrit de nombreuses choses à ce sujet. Elle est considérée comme un symbole d'une volonté qui est autonome et qui ne se laisse pas faire par les hommes. Malheureusement, Olympe de Gouges est morte guillotinée à Paris le 3 novembre en 1793. Mais pourquoi Olympe de Gouges a été guillotinée ?
Car elle a été jugée par un homme qui s'appelle Fouquier Tinville. Elle a été jugée car elle défendait trop le droit des femmes.
Elle est devenue un symbole pour le droit des femmes et elle a été courageuse.
Merci de nous avoir écoutés.
Grâce Elia.
Merci Alia et Grâce, et maintenant nous allons écouter la musique Effet de masse de Maël.
Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
Bonjour, vous êtes de retour sur la radio Champ Champ FM avec les 5e K. Nous venons d'écouter la musique Effet de masse de Maël. Maintenant, nous allons écouter Marius, Sarah et Clément.
Bonjour, nous sommes Sarah,
Marius
et Clément.
Et nous allons vous présenter une chronique contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle.
La lutte pour les droits LGBTQ+,
et l'importance de la marche des fiertés. Tout d'abord, on va vous expliquer la signification des lettres de LGBTQ+.
Il s'agit d'un acronyme qui désigne plusieurs orientations sexuelles ou de genre minoritaire. Le L signifie lesbienne, c'est-à-dire l'homosexualité féminine.
Le G signifie gay, ce qui signifie l'homosexualité masculine.
Le B pour bisexuel, qui signifie personne attirée par les deux sexes.
Le T trans, Le T qui signifie trans, qui désigne les personnes qui veulent changer de sexe.
Et le Q signifie queer. Ce sont des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps et se sentent appartenir à un autre genre que le leur.
Le plus désigne toutes les autres minorités d'orientation sexuelle.
Sarah, peux-tu nous parler du drapeau ?
Un drapeau symbolise l'espoir et la différence. Il a été créé en 1978 par Gilbert Baker. Ses couleurs représentent la diversité des genres et des sexualités. Le drapeau contient une bande rouge, une bande orange, une bande jaune, une bande verte, une bande bleue et une bande violette. C'est un outil pour représenter et défendre les minorités sexuelles.
En 2022, en France, 1200 personnes ont été victimes de discrimination et de violences liées à leur orientation sexuelle. Ces personnes subissent beaucoup de moqueries et de manifestations de haine dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Cela peut entraîner un mal-être important, voire de plus graves conséquences.
Clément, peux-tu nous parler de la marche des fiertés ?
La marche des fiertés est créée en 1970. Cette manifestation est internationale. Elle est organisée pour défendre les droits de LGBTQ+. Il y a des artistes internationaux qui viennent faire des concerts gratuits.
Il faut arrêter les discriminations sur les LGBTQ+.
Chaque jour, des personnes se font harceler.
Alors stop aux discriminations. Merci de nous avoir écoutés.
Merci Sarah, Clément et Marius. Et maintenant, Maëva, Kilia et Enora.
Kilia,
Enora,
Maëva.
Aujourd'hui, nous, les élèves du collège Wilbur-White, nous allons vous expliquer
ce que c'est le rôle du dispositif Ulysse et les actions
mises en place pour une meilleure accessibilité.
Que signifie l'aide du mot Ulysse ?
Les lettres du mot Ulysse signifient unité localisée pour l'inclusion scolaire.
Ça sert à quoi la classe Ulysse ?
Les classes Ulysse ont été créées pour l'inclusion des élèves en difficulté ou avec un handicap.
Mais qui sont les élèves du dispositif Ulysse ?
Ce sont des personnes en situation d'handicap ou avec beaucoup de difficultés.
Quels sont les handicaps des élèves du dispositif Ulysse ?
Les difficultés les plus fréquentes sont TFC, troubles des fonctions cognitives ou mentales. Le mot cognitif veut dire que ça concerne l'acquisition des connaissances et TED, trouble envahissant du développement, dont l'autisme.
Quels sont les avantages du dispositif Ulysse pour la dyslexie ?
Les élèves du dispositif Ulysse permettent de se sentir mieux avec les autres élèves du même niveau, qu'on appelle un cadre social inclusif.
Dans le dispositif Ulysse, les petits groupes permettent un suivi personnalisé et un apprentissage à un rythme adapté qu'on appelle un soutien individualisé.
Les profs mettent en place des stratégies pour que les élèves arrivent mieux à communiquer entre eux. Cela s'appelle une préparation à la vie active.
Si les élèves du dispositif se sentent mal, ils vont se confier à leur famille, les professionnels de santé ou l'équipe éducative. Ceci s'appelle une collaboration renforcée.
Et comment les professeurs enseignent aux Ulysse ?
Les professeurs ont mis en place des aménagements différents pour que chaque élève, selon leurs difficultés, ils doivent s'adapter aux difficultés de chaque élève.
Un témoignage d'élève.
Au début, j'avais peur d'être jugée, mais en Ulysse, on se sent compris. On m'aide à avancer à mon rythme et maintenant, je prends du plaisir à apprendre.
Mais Kilia, comment les enfants sont admis en Ulysse ?
Ils accueillent les élèves suite à une décision de la Commission des droits et de l'autonomie.
Merci de nous avoir écoutés. Et maintenant, nous allons écouter l'interview
de Monsieur Guyard et de Nathan, enregistrée hier.
Oui, alors moi, je suis professeur des écoles. J'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans et je travaillais initialement dans les écoles, écoles maternelles ou écoles élémentaires. Donc j'ai enseigné un peu dans tous les niveaux de la petite section jusqu'au CM2. Et en 2018, on m'a proposé un remplacement, parce que j'étais remplaçant, dans une Ulysse école à Jouy-l'Abbé, donc un dispositif Ulysse comme ici, mais au niveau primaire. Ça m'a beaucoup plu, j'ai travaillé là-bas pendant un an et demi. Et à la rentrée 2022, on m'a proposé de venir travailler ici au collège de Champagné avec les élèves d'Ulysse Collège.
Pourquoi avez-vous voulu être professeur du dispositif Ulysse ?
Alors, l'Ulysse École à Jouy-l'Abbé, ça m'avait beaucoup plu. Et quand on m'a proposé de venir ici travailler au collège de Champagné, je me suis un petit peu posé la question parce que je n'avais jamais travaillé avec des collégiens. J'avais toujours travaillé avec des élèves qui avaient entre 3 et 11 ans. Et puis je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de voir un petit peu comment on travaillait en collège et comment moi je pouvais accompagner des élèves en situation de handicap après l'école.
Est-ce qu'il y a une différence entre les professeurs Ulysse et les professeurs de collège ou professeurs des écoles ?
Oui, Alors, les coordonnateurs ULIS, ils peuvent être soit professeurs des écoles, soit professeurs de collège. Mais souvent, finalement, dans les faits, ce sont souvent des professeurs des écoles comme moi qui travaillent dans les ULIS collèges. La particularité, c'est que sur ce poste, il faut normalement être enseignant spécialisé. L'enseignant spécialisé, il connaît un petit peu mieux les élèves en situation de handicap et il est spécialiste pour les aider et trouver les meilleurs aménagements, les meilleures adaptations possibles pour leur permettre de progresser avec leur handicap. Alors moi, c'est pas mon cas pour le moment, je suis pas encore enseignant spécialisé, j'exerce sur le poste, mais je suis en train de passer une certification pour le devenir.
Pourquoi trouvez-vous que votre travail est important pour les élèves du dispositif ULIS ?
Alors je trouve que c'est important parce que mon rôle finalement c'est de les aider à avoir une scolarité la plus ordinaire possible. Mon travail c'est de réfléchir avec les élèves, avec les autres professeurs du collège aussi, à mettre en place les adaptations et les aménagements qui vont permettre aux élèves d'ULIS de réussir au mieux avec leur classe de référence quand ils vont avec leur classe de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e, réfléchir ensemble pour leur permettre d'apprendre comme les autres élèves le mieux possible. Voilà. Et puis également, il y a des moments, ils ne sont pas toujours en cours avec leur classe de référence, donc ils reviennent travailler avec moi en groupement ULIS, et à ce moment-là, j'aide les élèves, je leur permets d'apprendre à s'organiser dans leur travail. Alors en 6e, souvent, c'est apprendre à utiliser un agenda, utiliser son carnet de correspondance pour lire son emploi du temps, savoir utiliser Pronote, savoir faire ses devoirs à la maison, qu'est-ce qu'on attend d'eux quand ils sont en classe, etc. Voilà, à nouveau dans l'optique de leur permettre de réussir le mieux possible leur scolarité au collège.
Question que nous avons posée à Nathan du dispositif ULIS. Pourquoi fais-tu partie du dispositif ULIS ?
Alors, je fais partie du dispositif ULIS car j'ai des difficultés en maths, français, anglais et en regroupement ULIS, j'apprends les maths, le français et l'anglais, mais pas au niveau de 3e.
Est-ce que cela t'aide de faire partie du dispositif ULIS ?
Oui, beaucoup, car je fais mes devoirs en avance. On m'aide pour les maths, français et anglais. Il y a aussi Uriel à USH qui m'aide à mes inclusions.
Comment travailles-tu au quotidien ?
Alors, pour vous expliquer, on fait un plan de travail où on a des maths, parcours à venir, le français et m'avancer à mes devoirs.
Es-tu inclus dans une classe du collège ?
Bien sûr, je fais la physique-chimie, l'histoire, géographie, le PS, techno, l'SVT, l'art plastique et musique. Je fais presque tous les cours de 3e. Ce que je ne sais pas faire, c'est le français et les maths.
Es-tu content d'être dans le... dans ce dispositif ?
Oui, car je progresse dans la vie en 3e et je progresse aussi en maths, français et ça m'aide beaucoup.
As-tu des projets pour l'avenir ?
Oui, grâce à ce dispositif, parce qu'on peut faire plusieurs stages et pour l'année prochaine, je vais au lycée Funé Hélène Boucher pour faire 2 ans de CAP cuisine et 1 an de CAP pâtisserie. Donc, mon métier plus tard, c'est travailler en restauration ou cantine des écoles.
Merci Nathan. Au revoir.
Merci à vous.
Bonjour, vous êtes bien de... merci Maëva, Kilia et Nora. Puis le dispositif ULIS. Maintenant, nous allons écouter la musique À perte de vue de Calogero.
Même si je sais que tu ne me vois pas, que la vue pour toi est un mystère, je voudrais te chanter cet endroit, que tu puisses écouter la lumière. Je
mettras tes pas dans mes paroles. Et l'été aura un goût de miel. On ira dans les tournesols. Toutes ces fleurs qui font un bruit d'abeille, comme autant de soleil. Je voudrais te chanter cet endroit pour que tu le vois.
Bonjour, nous venons d'écouter à perte de vue de Calogero. Maintenant, on peut dire bonjour à Benjamin et nous allons l'interviewer avec Léa et Nathan.
Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler de... Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors je m'appelle Benjamin Dagar, je suis chargé de mission éducative à la Ligue de l'enseignement, FAL 72, et notamment dans mes missions, je suis coordinateur du collectif d'éducation à la citoyenneté et à la diversité qui organise chaque année les semaines d'éducation contre les discriminations.
Peux-tu nous dire ce que ça veut dire FAL ?
Alors la FAL, c'est un sigle, F-A-L, et ça veut dire Fédération des associations laïques.
Depuis quand la FAL existe et pourquoi a-t-elle été créée ?
Alors la FAL, la Ligue de l'enseignement, c'est un vieux mouvement, une vieille association qui a plus de 150 ans, qui a été fondée en 1866 par un certain Jean Massé au niveau national. Et Jean Massé, en fait, il partait de l'idée que c'était très bien d'avoir le droit de vote, mais encore est-il fallait avoir la capacité de bien utiliser son droit de vote et donc d'avoir un certain niveau d'éducation. Et lui considérait que si l'école avait un rôle central dans la formation de la citoyenneté, il fallait aussi que le maximum de personnes prennent part à l'éducation du peuple. Et donc il invitait chacun et chacune à s'éduquer. Et donc voilà, il y avait cet appel d'apprendre des choses en dehors du cadre de l'école. En Sarthe, la Ligue de l'enseignement, FAL 72, a été créée en 1931. Donc on a fêté les 90 ans il n'y a pas très longtemps.
Merci Benjamin. Peux-tu nous expliquer à quoi sert la FAL ?
Alors, la Fédération des associations laïques de la Sarthe, donc c'est une, comme on l'a dit, c'est une association d'éducation populaire. Et nous, on se définit comme étant un mouvement complémentaire de l'école. Donc, pour préciser, ça veut dire qu'effectivement, l'école c'est à une place centrale dans la formation des citoyens et des citoyennes. À l'école, on apprend plein de choses, on apprend plein de savoirs dans tous les domaines. Mais l'école, comme je le disais, ne suffit pas. Et pour nous, il faut, en plus de ce qu'on apprend à l'école, développer sa citoyenneté en, par exemple, s'engageant dans les associations, en, par exemple, créer une association au sein du collège, par exemple, partir en colonie de vacances l'été, parce que nous, on considère qu'en colo, en vacances, tout simplement, on apprend aussi plein de choses. On considère aussi que l'apprentissage, ça passe par l'engagement du corps et notamment par la pratique d'activités physiques. Donc on a aussi des activités sportives au sein de la Ligue de l'enseignement et aussi par des activités culturelles, par exemple la pratique artistique, le théâtre, etc. Donc nous, notre rôle d'association, voilà, c'est d'accompagner l'école et de contribuer à former des citoyens et des citoyennes les plus émancipés possibles.
Quelle action la FAL met en place ?
Alors, plein d'actions, comme je le disais, autour du sport, des vacances, de la culture. Pour vous donner des exemples concrets, moi je coordonne un dispositif qui s'appelle Lire et faire lire, alors qui s'adresse plutôt aux écoles primaires, c'est-à-dire maternelles et élémentaires, et qui permet donc à des personnes de plus de 50 ans d'aller dans les écoles pour leur lire des histoires. Donc cette action, pourquoi elle est bien représentative de la Ligue de l'enseignement ? Parce que d'une part, elle accompagne l'école, elle permet à ce qu'il y ait plus de personnes qui contribuent à l'éducation des enfants. Et d'autre part, elle a aussi une vertu plus sociale, dans le sens où elle permet à des personnes qui parfois arrivent à la retraite et ont envie de s'engager et ont envie de rester utiles d'une certaine façon. Et donc s'impliquer auprès des enfants, c'est un magnifique projet intergénérationnel. Voilà un exemple d'action. Je parlais des colonies de vacances. Donc nous, par exemple, on propose des formations pour former les animateurs et les animatrices. Et puis, quoi d'autre ? On va en parler peut-être un petit peu plus précisément, mais des semaines d'éducation contre les discriminations. Alors oui, nous, en tant que fédération, on a aussi pour rôle de regrouper les associations les unes avec les autres. En fait, on part de l'idée que si les associations, elles ont toutes une utilité et qu'elles peuvent toutes faire quelque chose dans leur coin, si elles sont reliées les unes avec les autres, ça va faciliter la connaissance des uns et des autres, ça va faciliter des projets. Vous connaissez certainement cette idée que tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Donc c'est un peu cette idée de la fédération, c'est travailler tous ensemble les uns avec les autres.
Merci Benjamin. Peux-tu nous présenter la semaine d'éducation contre les discriminations ?
Alors les semaines d'éducation contre les discriminations, c'est un projet qui existe depuis 2001, qui existe au niveau national. Il y avait déjà au début des années 2000, il y avait cette volonté de travailler autour plus précisément des questions de racisme. Et en Sarthe, et en particulièrement la Ligue de l'enseignement, la FAL, on s'est emparé de cette action en se disant ça rejoint nos actions de fédération et on va proposer aux associations de s'emparer de ce thème-là. C'est-à-dire que chaque association, quel que soit son objet associatif, elle peut très bien travailler autour de la musique, autour du handicap, autour du sport, autour de la culture. Finalement, toutes les associations, elles contribuent à lutter contre les discriminations à leur manière. Et donc les semaines d'éducation contre les discriminations, c'est une volonté de se regrouper et que chacun vienne mettre dans cet espace de discussion, c'est quoi pour nous la question des discriminations, et que les associations, elles apprennent à mieux se connaître et voir comment elles peuvent travailler ensemble. Parce que des fois, une association qui va travailler autour de la musique, elle a des choses à proposer, une association qui travaille autour du handicap, elle a d'autres choses à proposer, et en fait, quand elles vont se mettre ensemble, elles vont pouvoir créer des projets ensemble. Donc l'idée de ces semaines, c'est de travailler ensemble. Ça a lieu chaque année au mois de mars. C'est un peu un mois vitrine, dans le sens où la lutte contre les discriminations, c'est toute l'année, au quotidien, dans l'ensemble de nos actions. Mais sur le mois de mars, on va essayer de faire ressortir des actions, mettre en avant, comme ça le grand public pourra s'emparer du sujet. Et donc, c'est plein d'actions. Ça va être des ciné-débats, des conférences, des soirées interculturelles, des expositions, des ateliers radio dans les collèges. Voilà, plein d'événements divers et variés pour sensibiliser le plus grand nombre à cette question des discriminations.
Pourquoi as-tu décidé de travailler à la FAL ?
Alors, comment je suis arrivé à la Ligue de l'enseignement FAL 72 ? Alors moi, ça fait près de 10 ans que je travaille dans cette association-là, même un petit peu plus d'ailleurs. Alors moi, à la base, j'ai fait des études d'économie, donc pas en, directement en lien avec le champ associatif de l'éducation populaire. Et puis après, j'ai essayé d'abord d'être professeur de sciences économiques et sociales au lycée. Mais rapidement, je me suis questionné sur le cadre de l'école. Voilà, je me suis dit, effectivement, c'est hyper intéressant de transmettre, d'être au contact des élèves qui aussi nous apprennent plein de choses. Mais j'avais envie de déborder du cadre de l'école. Et j'ai trouvé cette possibilité de travailler là. Donc j'ai postulé là et je me trouve, vous voyez, 10 ans après, je me trouve encore dans cette structure qui nous apporte plein de choses et qui nous permet de circuler et de voir beaucoup de personnes dans des endroits très différents, les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi tout le monde des associations, des collectivités, etc.
Merci Benjamin. Maintenant, on va passer à la radio nos slams des 5e K qu'on a passé en rediffusion.
C'est pas parce qu'on harcèle qu'on est plus fort. Le harcèlement est une prison mentale.
Le harceleur abaisse tout un tas de gens.
Pourquoi harceler ?
Tu te crois drôle en plus.
Noir ou blanc, petit ou grand, on est tous pareils.
Moquerie égale inutile.
Pourquoi harceler ? Tu ne vas pas gagner le monde.
Au contraire, tu ne vas rien gagner. Tu vas plutôt avoir des problèmes.
Dès qu'il voit le harceleur, la victime a peur. Peur d'être menacée, agressée, moquée.
La violence est une maladie.
C'est difficile à supporter.
Se faire harceler, se prétresse qu'on est différent.
Aujourd'hui, harceler, c'est banal, ça reste mal.
Harceler, c'est pour les nuls, on comprend les innocents.
Stop harcèlement.
Nolan.
Nathan.
Maë.
Léa.
Et Léonore.
Le harcèlement scolaire.
Le harcèlement scolaire, ça entraîne à des pertes.
Noir ou blanc, vous êtes tous pareils.
Cheveux longs ou courts, vous êtes tous les mêmes.
Gros ou maigre, ça ne change rien.
Le harcèlement scolaire, c'est mal. Regardez autour de vous. Un enfant sur 10 se fait harceler à l'école. NAH, non au harcèlement.
Les surnoms débiles, forts et dégueux.
Si vous trouvez ça marrant, ça ne l'est pas.
Toute cette violence gratuite pour rien.
Ça commence avec des moqueries, des critiques et des insultes.
Ça peut se finir avec des élèves en moins. Le harcèlement, c'est mal.
Regardez autour de vous.
Un enfant sur 10 se fait harceler à l'école.
NAH, non au harcèlement.
C'est moi, oui.
Rebonjour sur Champ Champ FM 91.2 avec les Francas. Nous allons réinterroger Benjamin sur la FAL.
C'est quoi une discrimination ?
Alors, une discrimination, je vais m'en tenir à la définition que nous donne le défenseur des droits. C'est un traitement défavorable qui repose sur un critère reconnu par la loi dans un domaine reconnu par la loi. Alors, pour préciser, un traitement défavorable, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Un traitement défavorable, par exemple, par rapport à un autre groupe, on va m'empêcher l'accès à rentrer dans un magasin, on va m'empêcher l'accès pour rentrer dans un bus, on va moins me payer par exemple. Alors sur un critère reconnu par la loi, c'est qu'on va s'appuyer, cette exclusion elle va s'appuyer sur un critère qui peut être par exemple le sexe, la couleur de la peau, la situation économique de la personne, l'âge de la personne, etc. Et il y a toute une liste de critères qui sont aujourd'hui au nombre de 26 critères de discrimination. Il y a des critères qui sont reconnus à l'échelle européenne et il y a des critères qui sont reconnus uniquement dans le droit français. Donc cette liste, elle a des chances aussi de s'étendre avec le temps. Si vous me réinterviewez dans quelques années, peut-être qu'il n'y aura plus 26 critères, mais peut-être qu'il y en aura 30, voire plus. Maintenant, des domaines reconnus par la loi. Alors ça veut dire que ça nous permet d'identifier vraiment dans quelle situation précise il y a une discrimination. Parce que la loi, Elle ne peut pas considérer, par exemple, que si c'est dans une petite situation conflictuelle entre amis, bah, il va y avoir forcément une discrimination au sens juridique. La discrimination, elle va bien regarder le domaine, c'est-à-dire est-ce que cette discrimination, elle concerne l'éducation ? Est-ce que cette discrimination, elle concerne l'accès au logement ? Est-ce qu'elle concerne l'accès à un bien ou à un service ? Par exemple, l'interdiction d'entrer dans un magasin, dans une boîte de nuit, etc. Voilà, il faut vraiment se dire que la discrimination, elle est encadrée d'un point de vue juridique.
Y a-t-il différents types de discrimination ?
Alors effectivement, il y a différents types de discrimination, déjà qui reposent sur différents critères, hein, on l'a dit, l'âge, le sexe, la couleur de la peau, etc., donc des 26 critères. Mais il y a aussi une autre distinction qu'on peut faire, c'est la différence entre les discriminations directes et les discriminations indirectes. C'est-à-dire qu'il y a certaines discriminations, bah, on la voit se faire. On en a conscience, ou plus ou moins conscience d'ailleurs, mais en tout cas elle est faite directement. La discrimination indirecte, elle peut être... elle peut se faire, alors comme ce nom l'indique, indirectement. Par exemple, on va créer une offre d'emploi et l'annonce va comporter des critères de discrimination. Donc dans ce cas-là, on ne va pas discriminer directement une personne, mais par exemple, l'annonce ne pourra être... Il y a seulement que certaines personnes qui ne pourront répondre à cette annonce-là. Donc là, on va plutôt parler de discrimination indirecte.
Est-ce que les discriminations sont punies par la loi ?
Heureusement que oui, elles le sont. Alors à différents degrés, effectivement, en fonction de la gravité de ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, on dit qu'une discrimination, elle peut donner une peine de prison, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, et jusqu'à 45 000 euros d'amende, il me semble. Voilà, donc là, on est vraiment dans les cas des discriminations les plus importantes. Mais sinon, ça peut être aussi un rappel à la loi, des différentes sanctions, mais qui sont moins importantes.
Est-ce que la comment lutter contre les discriminations ?
Alors, nous, on pense qu'il y a différentes manières de lutter contre les discriminations. On peut plutôt chercher à agir d'un point de vue, j'allais dire, juridique, c'est-à-dire, et on doit le faire aussi, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une discrimination, bah, tout faire en sorte pour qu'elle soit reconnue. Donc là, ça va plutôt être le travail du défenseur des droits, des juristes qui vont vraiment amener les preuves qu'il y a eu des discriminations. Ça, c'est un travail essentiel. Et il y a un autre travail qui doit être fait, à notre sens, qui est de prévenir les discriminations. Parce que les meilleures discriminations, c'est celles qui n'ont pas lieu. Et ce travail de prévention, il passe à la fois par la sensibilisation des plus jeunes. Comment on peut créer un environnement le plus inclusif et dans lequel on a le plus envie de vivre les uns avec les autres, ça passe par une meilleure connaissance de soi, mais aussi des gens qui nous entourent et des gens qui sont plus loin. C'est un peu l'objet de nos semaines d'éducation contre les discriminations. Nous, on considère qu'on ouvre des espaces de discussion. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec certains sujets. On a le droit de ne pas... d'avoir des préférences pour certaines personnes, etc. Mais par contre, souvent, ça relève d'une méconnaissance de l'autre. Et donc, l'idée des semaines, c'est se dire, déjà, est-ce qu'on se connaît bien les uns avec les autres ? Donc, faire un travail de connaissance et de reconnaissance de l'autre et des différences culturelles, notamment. Et aussi, ouvrir des espaces où on a le droit de se dire nos conflits. On a le droit de se dire, sur tel sujet, on n'est pas d'accord, mais il faut être en capacité de discuter. Donc l'idée, c'est aussi de faire un travail de prévention. Et nous, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir discuter sur les événements des semaines d'éducation contre les discriminations.
Ça veut dire quoi s'engager et comment peut-on s'engager quand on est jeune ?
Alors, s'engager quand on est jeune, je pense que ça joue aussi à différents niveaux. Au niveau individuel, c'est vrai que j'aurais pu le dire avant, mais quand on est tout seul dans son coin, généralement... la notion d'engagement, elle n'est pas forcément développée au maximum. Donc, s'engager quand on est jeune, c'est aussi déjà discuter. Je pense partager ses problématiques, s'ouvrir aux autres. On a le droit de se regrouper. Hein, c'est aussi ça, c'est de se partager nos projets, de réfléchir à comment on peut les formaliser. Je parlais tout à l'heure des dispositifs qui existent pour s'engager. Au collège, vous avez un tas de dispositifs qui vous permettent de participer à la vie du collège. Et en dehors, s'engager dans les associations, donner de son temps. En fait, c'est ça, souvent, on a envie, et c'est assez normal, on veut faire des choses pour soi. Et parfois, tout ça, c'est des questions de temps. À quoi j'alloue mon temps ? À quoi j'occupe mon temps ? Est-ce que mon temps, je l'occupe pour mes petites préoccupations qui vont me rapporter un plaisir très rapide et très succinct ? Ou est-ce que j'essaie plutôt de participer à un projet collectif ? Et peut-être que je ne vais pas en tirer un bénéfice tout de suite, direct, immédiat, mais que dans le long terme, quand je regarderai, bah, j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose de solide et qui va apporter. Donc je dirais l'engagement, bah, ça passe par sa tenue au quotidien, voilà ce qu'on a envie de faire. Et puis, plus long terme, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble.
Avant de terminer, souhaitez-vous ajouter quelque chose, Benjamin ?
Eh ben, vous dire bravo pour ce projet radio, déjà, parce que c'est pas facile de se mettre derrière le micro et de prendre la parole. Donc, bravo à toute la classe de 5e qui a participé à ce projet, à vos professeurs qui l'ont encadré, à Laurent du Centre d'animation sociale de Champagné, au Franca aussi. Et je vous invite évidemment tous et toutes à prendre connaissance du programme des semaines d'éducation contre les discriminations, parce que dans la situation actuelle, avec un climat qui est parfois assez tendu, où les gens peuvent avoir des peurs, des craintes, eh ben, je pense que le bon réflexe serait d'aller en discuter, d'aller partager tout ça pour montrer et découvrir qu'on a beaucoup plus de points en commun, de choses à partager que de choses qui nous éloignent les uns des autres.
Nous sommes toujours avec la classe de 5MK. Nous sommes sur la radio Champ Champ FM 91.2 sur avec les Franca. Nous remercions Benjamin de nous avoir répondu à nos questions. Nous allons passer la musique Double Papa de Calogero et Aldebert. Merci.
Merci.
Pour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères. L'important, tu sais ma fille, ce n'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour.
Nous sommes tes ailes, deux papas pour toi, deux îles sans ailes, on s'est battu pour ça. Apollo résonne quand sur terre tu poses le pied. Un petit pas pour l'homme, un grand pour la paternité. Enfin nous voilà, famille, si fière, ma chère. Tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à une fille, un père, père, un double papa.
Raillerie et dédain, tout ça va de pair. Rien ne nous atteint quand la tendresse opère.
Laisse le feu des débats attiser les problèmes. Devant tant de joie, il s'éteint de lui-même.
Vivons de rires capturés, de ricochets sur les lacs, de volcans dans la purée et de sauts dans les flaques.
On le sait, tout ira bien tant qu'on verra ce symbole, ce cœur avec les deux mains
aux fenêtres des écoles.
Enfin nous voilà, famille si fière, ma chère. Tu troubles nos voix.
La vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa. Ah, un double papa.
Trouverai-je un beau jour la rime assez forte pour vous dire tout l'amour que je vous porte.
Avant que le temps ne les arde, cette photo de famille, tes deux grands-mères te regardent entrer dans la vie.
Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères.
Enfin nous voilà, famille.
famille si fière, ma chère. Tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à une fille, un père, père, un double papa.
Bonjour, nous sommes de retour sur la classe de 5e K sur la radio Champ Champ FM 91.2 avec les Francas. Nous allons entendre Juliette, Elsa et Ezio, Martin Luther King et Ruby Bridge qui vont nous présenter leur texte.
Bonjour, nous sommes Elsa,
Juliette
et Ezio et nous allons vous parler de la lutte contre la ségrégation.
Martin Luther King a réussi à faire en sorte que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs, avec deux lois votées en 1964 et 1965, le Civil Rights en 1964 et le Voting Rights Act en 1965.
Le Civil Rights Act de 1964 est une loi votée par le Congrès des États-Unis, publiée par le président des États-Unis, Lyndon B. Johnson, le 2 juillet 1964, qui a mis fin à toute forme de ségrégation, de discrimination sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale.
Le Voting Rights Act de 1965, elle interdit les discriminations.
Martin Luther King était venu à Memphis défendre ses compatriotes noirs en grève et devait revenir pour une marche fixée au 9 avril.
Il est mort devant 250 000 Américains rassemblés à Washington. Il a prononcé son fameux discours « I have a dream ». Ezio, peux-tu nous expliquer ce qu'est la ségrégation ?
C'est l'action de mettre à part quelqu'un ou un groupe.
Ruby Bridges fut la première écolière noire à intégrer une école blanche à la Nouvelle-Orléans. Elle est devenue une figure des droits civiques aux États-Unis. Elle vient de publier un livre pour enfants dans lequel elle raconte sa rentrée scolaire en 1960.
En 1954, année de sa naissance, la Cour suprême a jugé que la ségrégation raciale des enfants dans des écoles publiques était inconstitutionnelle, mais les États du Sud restaient réticents et ne voulaient pas que les enfants se mélangent.
Son courage et sa détermination ont non seulement brisé les barrières et la discrimination, mais ont également ouvert la voie à des changements importants dans la société américaine.
Ruby Bridges est une militante des droits civils américaines, née le 8 septembre 1964 à Tylerton, dans le Mississippi.
Elle est devenue célèbre à l'âge de 6 ans en étant devenue la première enfant noire à aller dans une école blanche en Louisiane.
Cela a eu lieu en 1960, à une époque où la ségrégation raciale était encore très présente aux États-Unis.
Merci Elsa, Juliette et Ezio pour votre texte. Maintenant, on va écouter Léo, Antonin et Nolan qui vont vous parler des discriminations raciales dans le sport.
Bonjour, moi c'est Léo.
Moi c'est Nolan.
Moi c'est Antoine.
On va vous parler des discriminations raciales dans le sport.
Tout d'abord, on va vous donner la définition de discrimination raciale.
La discrimination raciale, c'est traiter quelqu'un différemment, de manière injuste, à cause de sa couleur de peau, de sa religion, de son apparence, son origine ou son ethnie.
Si par exemple un joueur n'est pas sélectionné dans l'équipe de France à cause de sa couleur de peau, ou de son origine, il s'agit d'une discrimination raciale qui sera sanctionnée par le code du sport et par le code pénal.
Ensuite, Léo va vous présenter deux hommes qui se sont battus contre la discrimination raciale.
Ces deux hommes sont deux sprinteurs américains appelés Tommy Smith et John Carlos qui ont remporté respectivement une médaille d'or et une médaille de bronze sur les 200 mètres. Antonin, qu'est-ce que les athlètes ont fait lors de ces JO ?
Seuls ont levé leurs poings en l'air, munis d'un gant noir contre la ségrégation raciale subie par les Noirs américains, un point pour l'égalité entre tous les hommes.
Y a-t-il toujours des discriminations dans le sport ?
Malheureusement, oui, il en existe toujours, des discriminations dans le sport, et on ne pourra jamais arrêter tout cela.
Merci. Merci Léo, Antonin et Nolan de nous avoir expliqué la discrimination raciale dans le sport. Maintenant, on va écouter Aaron, Sohan et Léa qui vont vous parler des Jeux paralympiques.
Bonjour, nous sommes
Aaron,
Sohan
et Léa.
Nous allons vous parler des Jeux Paralympiques
qui essayent de changer le regard sur le handicap et donnent de la visibilité aux athlètes.
La première édition des Jeux Paralympiques a lieu du 15 au 24 octobre 1988. 3057 athlètes et 60 nations étaient présentes à ce moment historique.
Mais pourquoi créer des Jeux Olympiques pour les personnes porteuses de handicap ?
Au début, ils étaient appelés Jeux de Stoke-Mandeville. Ils étaient destinés à aider par la pratique physique des victimes et anciens combattants dans la Seconde Guerre mondiale, devenus paraplégiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus utiliser un ou plusieurs de leurs membres. Ainsi, les Jeux de Stoke-Mandeville ont pris de l'ampleur et sont devenus les Jeux paralympiques.
Mais donc, quels sont les sports et les épreuves qui ont lieu aux Jeux paralympiques ?
En termes de sport de raquette, il y a le para-tennis de table.
En sport d'eau, il y a le para-canoë-kayak, para-natation.
En sport de combat, il y a le para-judo.
Mais il y en a d'autres. Parfois, on peut avoir des parcours impressionnants comme celui de Rémi Boulet. En effet, lors d'un entraînement, ce militaire n'a pas pu déployer son parachute.
Il est tombé et se cassa les deux jambes. Depuis, il souhaite quand même porter les couleurs de sa nation en para-canoë-kayak.
Il est médaillé de bronze sur le 200 mètres. Cela montre que lorsqu'on est touché par un handicap, notre vie n'est pas terminée. Il y aura toujours un espoir.
Changer le regard sur le handicap et donner de la visibilité aux athlètes.
Les Jeux paralympiques peuvent changer l'image et le regard des gens sur les personnes porteuses de handicap grâce aux différentes épreuves réalisées par les athlètes lors des deux semaines de compétition.
Ils peuvent changer le regard porté sur les invalides grâce à des gens qui ont pensé à eux en leur faisant des épreuves adaptées à leur handicap, comme par exemple le cécifoot qui a du football mais pour les personnes malvoyantes ou aveugles.
Cela se fait grâce à un ballon qui a des grelots, qui fait du bruit lorsqu'il se déplace. Les Jeux paralympiques ont également énormément d'influence, près de 2 millions de spectateurs au Paris 2024. Et ce qui nous concerne, les Jeux paralympiques nous ont impressionnés, nous ont particulièrement été impressionnés par l'athlétisme.
Merci Aaron, Sohan et Léa de nous avoir expliqué les Jeux paralympiques. Maintenant, on va écouter un slam écrit par la plupart des élèves de la classe de 5e K. On est toujours sur la radio Champ Champ FM 91.2 avec les Francas.
Sarah, Grâce, Kylian.
On va vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Riley. Riley voulait faire du foot. Ses parents lui ont dit oui, mais les garçons ont dit non, on ne veut pas de toi au foot. Riley voulait porter des jogging. Ses parents lui ont dit, tu es si jolie en robe. Mais les garçons lui ont dit, non, tu n'es pas un garçon, t'es moche en jogging. À l'âge de ses 9 ans, Riley a décidé de s'habiller en noir et gris. Mais les autres se moquaient encore d'elle. Riley trouvait ça bizarre, mais pensa que c'était normal. À l'âge de ses 12 ans, Riley a décidé de se couper les cheveux courts. Mais elle le dit aux autres et ils le répétèrent et la harcelèrent tous les jours. Ils lui disaient, de toute façon, tu n'es qu'un garçon manqué.
Le harcèlement et les moqueries ont continué jusqu'à ses 16 ans. Elle rentra au lycée à ses 16 ans et elle pensa déjà au suicide. Le harcèlement continua toujours parce qu'elle jouait au foot, elle avait les cheveux courts, elle s'habillait en noir et en gris.
À ses 17 ans, le directeur appela les parents de Riley car elle ne venait plus en cours. Les parents de Riley commencèrent à pleurer. Ils avaient découvert une lettre dans sa chambre. Elle disait qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi, qu'elle les aimait de tout son cœur, mais que ça faisait trop longtemps qu'elle se faisait harceler et que c'était trop dur pour elle. Le directeur comprit qu'elle n'était plus des nôtres. Voilà, on vous a raconté la triste histoire de Riley. Maintenant, c'est à vous de lutter contre le harcèlement.
De retour sur Champ Champ FM sur la fréquence 91.2 avec les Francas. Maintenant, nous allons maintenant Nathan, Maë et Hugo vont vous présenter leur chronique Lutter contre les discriminations.
Bonjour, nous sommes Hugo,
Nathan
et Maë.
Nous allons vous présenter comment faire pour lutter contre les discriminations et les sanctions que l'on encourt si on discrimine quelqu'un.
Les peines encourues varient selon la nature et la gravité des faits. Elles peuvent aller de simples amendes à des peines d'emprisonnement, en passant par des dommages et intérêts parfois conséquents. Les tribunaux n'hésitent plus à prononcer des sanctions exemplaires pour marquer les esprits et dissuader le comportement discriminatoire.
Par exemple, si le gérant d'une boîte de nuit refuse à des personnes de couleur de rentrer dans son établissement à cause de leur couleur de peau, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Comment agir contre les discriminations?
Tout d'abord, il faut dénoncer les discriminations auprès du défenseur des droits ou à des associations de lutte contre les discriminations. Il faut faire preuve de solidarité en aidant la personne subissant la discrimination, car elles sont souvent seules.
Si vous voyez une personne d'un groupe se faire rejeter ou n'importe quelle raison parmi les 26 motifs de discrimination, par exemple l'apparence physique, l'orientation sexuelle, le handicap, il faut lui venir en aide.
Comment changer le comportement?
Il faut protéger des individus en sanctionnant la discrimination. Il faut aussi prévenir les discriminations, par exemple en rendant anonymement les candidatures à des emplois. Quel est le rôle d'une sanction de discrimination?
Le rôle d'une sanction de discrimination est de faire comprendre à ceux qui vont subir aux autres est mal et peut être puni par la loi. N'hésitez pas à aller aider une personne qui se fait rejeter.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à Nathan, Maë et Hugo. Et maintenant, Théo et Marcelino vont nous présenter leur chronique sur Joséphine Baker.
Bonjour, je m'appelle Théo et je suis accompagné de mon camarade
Marcelino. Aujourd'hui, nous allons vous parler des discriminations sociales et raciales.
Nous allons vous parler d'une artiste qui a lutté contre les discriminations sociales et raciales, Joséphine Baker, née le 3 juin 1906 aux États-Unis. Pour commencer, la discrimination sociale et raciale, c'est quoi ?
Une discrimination raciale est le rejet d'une personne qu'on trouve différente par rapport à sa couleur de peau. Ça peut être traité une personne défavorablement sur sa couleur.
Joséphine Baker, durant son enfance, alternait l'école et le travail domestique pour les personnes riches.
Sa mère l'envoie d'elle-même afin de ramener un salaire à sa famille pour se nourrir. Au final, elle quitte l'école à l'âge de 13 ans en 1920.
Joséphine Baker, durant la Seconde Guerre mondiale, travaille pour les services français.
Elle termine la guerre en tant que lieutenant de l'armée française. Elle reçoit en 1946 la médaille de la résistance française.
Elle lutte contre le racisme et a soutenu le mouvement américain des droits civiques. Joséphine Baker se bat aux côtés de Martin Luther King qui prononce son discours « I have a dream » lors d'une marche à Washington pour l'emploi et la liberté le 20 août 1963 et en uniforme de l'armée de l'air.
À l'âge de 16 ans, Joséphine Baker a envie de danser à Broadway. Peu de temps après, elle part pour New York. Mais après avoir été plusieurs fois refusée par le directeur de Music Hall parce que c'était une femme de peau noire, elle décide donc de rejoindre la comédie musicale.
C'est une sorte de théâtre qui mélange la comédie, le chant et la danse. Joséphine Baker devient après une star malgré qu'elle soit de couleur noire et que c'était ce qui était dur à vivre pour elle.
Joséphine Baker est décédée le 12 avril 1975 à Paris, près de 50 ans après sa mort. Son corps est déplacé au Panthéon en 2021.
Elle est la sixième femme et la première noire à avoir rejoint le Panthéon. On la retrouve maintenant sur les nouvelles pièces de 20 centimes de France en son honneur.
Tout ça pour vous prouver que certaines personnes et artistes ne nous sont pas laissés faire et ont lutté contre cette discrimination raciale.
Merci à Théo et Marcelino pour leur chronique. Et maintenant, nous allons accueillir Éléonore et Timéo qui vont nous parler des formes d'engagement dans la lutte contre les discriminations.
Bonjour, nous sommes Timéo
et Éléonore.
Nous allons conclure l'émission en s'interrogeant sur la question suivante.
Quel est le rôle central du citoyen dans la lutte contre les discriminations?
Qu'est-ce que l'engagement? S'engager, c'est faire quelque chose qui a pour but d'aider des personnes en difficulté et dans le besoin. On peut s'engager de différentes manières. Faire du bénévolat dans une association, faire des actions de sensibilisation comme de l'information, des ateliers en classe. Les associations font aussi des animations scolaires, culturelles, et sportives, mais il y a aussi des aides au déplacement et des accompagnements sociaux. Le but du citoyen est d'aider une personne victime de discrimination.
Le but est d'arriver à une fin où nous sommes tous égaux. Le but du citoyen dans la lutte contre les discriminations est d'aider les personnes qui sont victimes de discrimination pendant leur scolarité. Leur rôle peut être ponctuel ou régulier en fonction des disponibilités des bénévoles au sein de plusieurs associations.
Qu'est-ce qu'une discrimination ? C'est un rejet par rapport à une différence. Comme nous vous l'avons appris tout à l'heure, elle peut être raciale, sexuelle ou liée à un handicap physique ou mental.
Nous vous le redisons, mais les discriminations raciales, c'est quand quelqu'un se fait rejeter à cause de ses origines ou de sa couleur de peau. Elle peut se produire dans la vie de tous les jours et dans des emplois, elle peut être punie par la loi.
La discrimination sexuelle. Cela peut arriver aux femmes comme aux hommes. Elle peut se produire dans plusieurs cas, au sein du travail, à l'école, dans les familles et dans la vie de tous les jours.
Le rôle du dispositif Ulysse, c'est d'aider les personnes en situation de handicap de tout type et de les aider à s'intégrer au sein d'un établissement ou d'une structure adaptée à leurs besoins pour une meilleure scolarité possible, et elle permet aux jeunes d'avoir les mêmes droits que les autres.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à Éléonore et Timéo pour cette chronique. Nous sommes toujours sur Champchamp FM sur la fréquence 91.2 avec les Francas. Et maintenant, nous allons vous laisser avec Rosa de Pascal Obispo.
Quand d'obéir dégoûte aux enfants dans la vase, y'a toujours une goutte qui fait déborder un vase. Et puis se voir dire non, enfin, enfin le dire, pour respirer à fond, se soulager du pire. C'était ça ou crever, sans fierté à genoux, quand y'a rien à rêver. Qu'on risque après tout. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait le premier pas, et y a eu Mandela après toi. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. T'as fait courir la voie. T'as eu ce courage-là, Rosa. Pour ceux qui dans l'histoire n'ont pas retenu ton nom, non, tu es la première noire à avoir osé dire non. Parce qu'assise dans un bus, un blanc voulait ta place avec la peur en plus de le regarder en face. Si tu voyais, Rosa, les routes que tu as faites, parce qu'un jour tu osas simplement tenir tête. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. T'as fait le premier pas, et y a eu Mandela après toi. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait couvrir la voie, mais t'as eu ce courage-là.
Nous venons d'écouter Rosa de Pascal Obispo. Nous sommes sur Champchamp FM sur la fréquence 91.2. Nous sommes les 5e K et cette émission est dédiée aux luttes contre les discriminations. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais vous donner quelques informations. Si vous voulez écouter ou réécouter notre émission, l'émission sera rediffusée sur Champchamp FM ce soir à 19h30 et demain sur la plateforme champchampfm.blogspot. Vous pouvez retrouver le programme d'activité contre les discriminations sur la FAL 72. Léo va pouvoir dire les remerciements.
Toute la classe de 5e K remercie Benjamin d'être venu au collège et dans l'émission. On peut remercier Laurent qui nous a accompagnés tout au long du projet. Nous remercions aussi nos professeurs, Monsieur Pluma dans le MC qui nous a donné des splendides pour nos chroniques. Il y a aussi Madame Cinquin, en français, qui nous a aidé à compléter et finir nos chroniques. On remercie aussi Madame Dibéola pour les slams et la chanson. On remercie également l'association des Francas, notamment Charlotte qui nous a aidé à faire la partie technique tout au long de l'émission. On remercie tous les élèves d'avoir créé de superbes chroniques. Et pour finir, on remercie surtout les auditeurs de nous avoir écoutés.
Si vous voulez écouter d'autres émissions de radio sur les discriminations, la classe de 5e W passera à la radio le jeudi 3 avril à 9h
avec la Maison de l'Europe. La classe de 5e O sera là aussi le jeudi 3 avril à 15h30 pour le Téléthon. La classe de 5e L sera également là le vendredi 4 avril à 15h30 pour Homogène. C'est la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une très bonne journée et merci de nous avoir écoutés. Vous allez maintenant écouter Angela, interprétée par la classe de 5e K avec la grande aide de Madame Di Paola.
L'Amérique est figée, un ange proteste, des égouts sont rouillés, un black, un iPod, le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent, un soir à Mexico, le rêve martyrisé de Martin Luther King, une enfant du brûlé, vomit qu'on assassine, tempère doit retraquer. Le son d'intolérance, cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh Angela, Angela, my home is your home. Oh Angela, Angela. À Chicago, les États qui s'unissent, échangent de beaux. Si le monde s'incline et nous parle de chance, ce soir Angela, c'est à toi que je pense. Oh Angela, Angela, my home is your home. Oh Angela. Angela, you know, you never walk alone. Angela, ma sister, Angela, ma sister, my home is your home. Angela, ma sister, Angela, ma sister, ton nom dans nos vies résonne. Angela, my home is your home. Oh Angela, Angela, ton nom dans nos vies résonne. Oh Angela, Angela, my home is your home. Oh Angela.
Bienvenue sur Radio Franca, la radio des enfants et des jeunes.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine.